Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Ce n'est pas dans la discorde, c'est dans l'union retrouvée que nous atteindrons notre but, ce grand renouveau, dont vous sentez bien qu'il n'est pas une chimère, mais une possibilité qui déjà commence à apparaître à notre vue et qui bientôt sera à notre portée.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent. Les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici une dizaine d'années, un politologue américain proche du président George Bush Jr., Robert Kagan, avait brocardé dans un livre intitulé « La puissance et la faiblesse, les États-Unis et l'Europe dans le nouvel ordre mondial », avait brocardé l'impuissance militaire de notre continent, assimilant ironiquement l'Amérique à Mars et l'Europe à Vénus. Le dernier Conseil européen qui a traité de ce thème, en décembre 2013, a bien pu marquer quelques avancées en prévoyant des projets de coopération sur les drones, les avions ravitailleurs, la technologie satellitaire ou encore la cyberdéfense. Mais cela ne suffit certainement pas à affirmer qu'il existerait désormais une Europe de la défense. Celle-ci demeure, en vérité, un fantôme. La France n'a guère été soutenue par ses partenaires, ni au Mali, ni en République centrafricaine, alors que l'Union tout entière devrait se sentir concernée sur son flanc méridional. Et à l'Est, la crise ukrainienne, grosse de lourdes incertitudes, est l'occasion de mesurer la faiblesse des moyens militaires de l'Union en face d'une Russie qui réarme à grande vitesse. On est très loin, très loin de cette communauté européenne de défense, la CED, qui avait failli être adoptée en 1954. La France l'avait sabordée après avoir été son instigatrice. Cette situation de faiblesse est-elle liée à l'absence d'une diplomatie unifiée de l'Union? Peut-on l'imaginer durable dans un monde si dangereux? Il m'a paru utile de se demander quelles sont les origines lointaines et les ressorts récents de cette impuissance redoutable. Robert Franck, professeur émérite en histoire des relations internationales à la Sorbonne, est mon interlocuteur ce matin, fort avisé. Avec lui, nous allons entendre Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, le 15 février 1951, dans un discours à l'ouverture d'une conférence sur un projet d'armée européenne.
Le gouvernement français a exposé dans un mémoire qui vous sera distribué sa conception d'une armée européenne. À l'intérieur de la force atlantique trouvera sa place une armée européenne, instrument permanent de la sécurité de notre continent, élément essentiel de l'intégration de l'Europe. Mon gouvernement a proposé que la création de cette armée s'accompagne de l'établissement d'institutions politiques. Il s'agit au début de désigner un commissaire européen à la défense, collaborant avec un conseil des ministres, sous le contrôle d'une assemblée interparlementaire. Sans de telles institutions, une armée commune à des pays démocratiques ne se conçoit pas. Elles présideront à son recrutement, à son entraînement et à son entretien. Le commissaire européen à la défense assurera la mise en condition des contingents fournis par chaque pays et la formation d'unités européennes. Il ne suffit pas de mettre sur les manches de nos soldats et de nos officiers l'écusson Europe. Et il s'agit de recruter dans les pays associés, selon des règles à définir, des contingents soumis à une autorité commune, dotés de statuts et de règlements analogues, équipés d'armements identiques, de les insérer dans de grandes unités comprenant des contingents de nationalités diverses. Aux soldats et aux officiers de l'armée future, il faut un esprit européen. Quelle que soit leur origine, il faut sans tarder les habituer à vivre ensemble, à s'instruire, à manœuvrer en commun. À défaut de cela, nous ferions œuvre vaine et factice.
Robert Franck, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que ces paroles sont prononcées 9 mois après la célèbre déclaration de Robert Schuman dans le Salon de l'Horloge, annonçant le projet de communauté européenne du charbon de l'acier, et qui fait de Schuman un des pères de l'Europe avec le recul. Eh bien, qu'est-ce qui vous frappe dans ce discours très ambitieux par rapport à aujourd'hui ?
Beaucoup de choses. Par rapport à aujourd'hui, il est évident que beaucoup d'espoirs ont été déçus, hein, beaucoup d'espoirs de l'époque. Nous n'avons pas d'armée européenne aujourd'hui. En effet, cette armée européenne préfigurait ce qui va se passer en discussion dans les jours qui vont suivre ce discours. On parlera de CED, de Communauté européenne de défense, et celle-ci, vous l'avez dit, va échouer. On n'a pas d'armée européenne, cela dit, on a un corps européen, Eurocorps, hein, quelques dizaines de milliers de soldats qui peuvent servir de force de projection à l'intérieur et à l'extérieur. Donc nous avons quand même un socle. Mais on est très très loin de cet espoir qui a pour contexte, je dirais, la guerre de Corée. Les États-Unis demandent à l'Europe de prendre en charge une part de leur armement, de leur réarmement, de leur défense.
Au maximum de la guerre froide.
Voilà, on est au maximum de la guerre froide, exactement. Et les États-Unis ne veulent pas tout payer et ils disent qu'il y a une solution, c'est le réarmement allemand. Et au fond, Jean Monnet, qui inspire Robert Schuman, parle donc plutôt d'une armée européenne. On pourrait effectivement inclure des soldats allemands, des contingents allemands dans l'armée européenne. Ainsi, il n'y aurait pas d'armée allemande à proprement parler. On fait ainsi une pierre de coups. C'est-à-dire on répond aux Américains, d'une part, dans ce contexte de la guerre froide, et d'autre part, on essaye d'aller plus loin dans la construction européenne. Créer une armée européenne avant de créer un gouvernement européen, ça devrait obliger un jour d'avoir un gouvernement européen, une sorte de fuite en avant qui est organisée. Ça n'a pas tout à fait fonctionné ainsi.
On est au cœur de la problématique, de fait, et nous allons revenir sur tout cela plus en détail, mais c'est vrai que le contraste entre ces déclarations et la situation d'aujourd'hui est évidemment éclatante. Je rappelle que les dépenses de défense des Européens ont baissé de 15% de 2001 à 2011 et que seuls les budgets de la défense de 3 pays de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, évidemment hors de l'Europe, la Grande-Bretagne et la France, dépassent les 2% du produit intérieur brut auquel les alliés s'étaient engagés en 2006, d'ailleurs à la demande des Américains. À l'époque où Washington fournissait 75% des dépenses de l'OTAN contre 50% contre la guerre froide. Il faut donner un certain nombre de chiffres pour prendre la mesure de tout ça. En France, la part du budget des armées dans celui de l'État, qui était de 28% au sortir de la guerre d'Algérie, mais évidemment la situation était spécifique, et qui était de 15% au moment de la chute du mur en 1989, dépasse de justesse les 10% en 2012. Et même si en chiffre absolu, il demeure le cinquième du monde, juste derrière l'Angleterre, il ne s'élève au moment où nous parlons qu'au niveau d'une trentaine de milliards d'euros, dont 10% consacrés à la force de dissuasion nucléaire, 30 milliards d'euros à comparer aux 700 milliards de dollars que les États-Unis dépensent pour leur défense.
On pourrait parler même de deux courbes à long terme à travers le XXe siècle, hein, lorsqu'on prend les budgets militaires. Les budgets militaires en temps de paix hors guerre mondiale ont une tendance à augmenter, je dirais, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Ce que la France consacre à son armement en 1914, à la veille de la guerre, c'est moins que ce qu'elle consacre à son armement en 1939.
C'est moins
avant la guerre.
Ah oui.
Et en 1939, c'est moins que ce qu'elle consacre à la veille de la guerre d'Algérie. Hein, voilà. Et deuxième partie de la courbe, c'est ce que vous indiquez, c'est comment à partir de la fin du 19e siècle, et évidemment surtout après la fin de la guerre froide et la fin de l'Union soviétique, il y a au contraire une baisse tendancielle de ces budgets, France, Grande-Bretagne, États-Unis compris, même si ces trois pays gardent une part importante dans l'armement mondial.
Voilà la longue durée, Robert Franck, toujours précieuse et qui nous conduit à évoquer très, très brièvement. Mais d'abord, le 19e siècle, comme vous nous y appelez, Il y a d'ailleurs eu, d'une certaine façon, une armée européenne, après le traité de Vienne, après l'installation de l'ordre souhaité en particulier par Metternich.
Une armée européenne, peut-être pas. mais il y a effectivement des opérations approuvées par le concert européen. D'une certaine manière, le congrès de Vienne de 1815, et dans le cadre du système Metternich, et c'est ce que voulait le chancelier autrichien, c'était ce concert européen. C'est-à-dire, non seulement l'équilibre européen classique du XVIIIe siècle, mais que cette équilibre soit pas seulement mécanique, qu'il soit organique et qu'il soit le fruit d'une concertation permanente.
Soit je forçais le trait, mais néanmoins il y a eu des armées qui sont devenues l'instrument d'une détermination européenne et notamment du concert des nations fondé sur l'esprit dynastique. Alors il y a fameuse affaire de l'intervention de l'armée française en Espagne, rappelez-nous.
En 1823, la fameuse bataille du Trocadéro, nous avons ça dans la toponymie parisienne, effectivement, l'armée française rétablit les Bourbons qui étaient en difficulté d'une fête d'une révolte, et Chateaubriand, mis affaires étrangères, et Louis XVIII, roi de France, cela se passe dans le cadre du Conseil européen, parce qu'effectivement, Metternich et toutes les autres puissances restauratrices des dynasties, etc., ont appuyé effectivement la France.
À peu près comme quand l'ONU aujourd'hui donnerait instruction ou autorisation à une armée spécifique d'un pays pour intervenir au profit de l'ordre international.
Tout à fait. Et voyez, l'idéologie n'est jamais loin, parce que dans le cas de la Sainte Alliance, c'était bien sûr un ordre européen fondé sur la restauration, la réaction au sens propre du terme, contre-révolutionnaire. On a eu peur des révolutions auparavant et Napoléon.
Contre le principe de l'autodétermination des peuples.
Tout à fait. Et bien sûr, il y aura d'autres conseils européens au long du 19e siècle qui changeront d'idéologie. Sous Bismarck, par exemple, après l'unité allemande, il y a un conseil européen. C'est Bismarck qui est un peu à la tête de ce conseil européen. Et on n'est plus dans les restauration. Après tout, l'unité allemande qui avait été refusée par le congrès de Vienne est bien là. On a un autre exemple, là presque d'armée européenne, mais là ce sont des contingents, si vous voulez, sous commandement allemand. C'est lorsque le général Waldersee commande donc plusieurs unités d'origine diverse en Europe pour mater la révolte des Boxers en Chine en 1900.
Je veux dire que les Boxers avaient assassiné l'ambassadeur d'Allemagne, ce qui était très méchant.
Effectivement, il y a eu cette réaction. Bon, mais si vous voulez, on est là dans un système plutôt de concert européen, de concertation européenne. Il n'est pas question d'avoir une armée intégrée. Ce sont bien sûr les souverainetés nationales sont complètement respectées.
Même si déjà avant 14, un certain nombre de théoriciens, je pense en particulier à l'homme politique français Léon Bourgeois, songe déjà à un instrument militaire qui permettrait d'appuyer un ordre international. Et il défend également cette idée au moment du traité de Versailles, en 1919, mais en vain.
Effectivement, Léon Bourgeois, qui était pour la Société des Nations, et il aimait cette idée dès 1912, est favorable à l'idée que cette Société des Nations est un bras armé. Et effectivement, la France, aussi bien au début de la SDN, avant la création de celle-ci, au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme au début et à la naissance de l'ONU, milite pour que, effectivement, ces organisations internationales aient un bras armé. Et ça ne sera jamais le cas. La France ne sera pas suivie ni pour la SDN, ni pour l'ONU.
Ça se heurtera, l'idée de Bourgeois se heurte à l'opposition à la fois de Wilson, le président américain, et de Lloyd George, le premier ministre britannique.
Effectivement, et là, c'est la question de l'opinion américaine, c'est la question aussi de l'opinion britannique, de l'opinion des Dominions, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Union sud-africaine. L'idée que s'il y a un bras armé de la Société des Nations, cela impliquerait l'entrée en guerre de ces Dominions, l'entrée en guerre du Royaume-Uni, l'entrée en guerre des États-Unis, sans forcément l'avoir voulu. Et c'est bien sûr cette automaticité qui est refusée dans le cadre des souverainetés nationales à respecter.
Perte de souveraineté, le problème est toujours actuel. À quel moment et comment doit-on accepter une délégation de souveraineté avec ce que cela représente de sacrifice par rapport à des traditions séculaires?
Là, on est au cœur de la problématique de la défense. La défense, la sécurité, ça implique le risque de guerre. La guerre, c'est le risque de mort. Le monopole de la violence à l'extérieur, c'est l'État. Et en partie pour l'État-nation, c'est l'idée que la nation est un groupe d'individus ayant suffisamment de solidarité entre eux pour qu'on accepte ce risque de mort. Comment déléguer ce pouvoir d'usage de la violence au-dessus des États-nations?
C'est pourquoi la politique et le militaire sont intimement liés. C'est pourquoi tout à l'heure, nous entendions Robert Schuman évoquer ce commissaire européen à la défense qui était l'incarnation d'une délégation de souveraineté à hauteur supérieure.
Oui. D'où la difficulté. Et prenons l'exemple de Catherine Ashton aujourd'hui, qui aurait pu être ce commissaire, puisqu'elle est haute représentante de l'Union pour la politique extérieure et de sécurité.
Je ne sais pas si elle a lu le discours de Robert Schuman.
Il est évident qu'elle n'a pas du tout les pouvoirs qui auraient été ceux du commissaire dont parle Robert Schuman. Et donc ce commissariat aurait été important, bien sûr, dans le cadre de la CED, si celle-ci avait été approuvée par la France le 30 août 1954.
Alors pour rester aux années 20, on a oublié souvent qu'il y a eu un certain nombre, en dépit de l'échec de Léon Bourgeois, d'espérance, d'aspiration à un ordre international assuré par des armées déléguées par la Société des Nations.
En effet, il y a le pacte de la Société des Nations qui fonde celle-ci en 1919 et plusieurs articles parlent de défense et de sécurité. L'expression sécurité collective ne figure pas au pacte, mais la chose existe et quelques années plus tard, on parlera de sécurité collective. L'article 10, 12, l'article 16 parlent effectivement de cette sécurité collective, même si celle-ci n'est pas nommée. En effet, l'idée que la Société des Nations, c'est une assistance mutuelle. Tout membre attaqué, il est considéré que les autres membres se considèrent comme étant agressés également.
Ce qui implique sinon une armée commune, du moins une action militaire commune,
une action commune,
comme au temps des boxers.
Voilà. Et pourtant, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que ce même pacte dit que les décisions doivent être prises, que ce soit au Conseil, avec un C majuscule, ou à l'Assemblée, avec un A majuscule, à l'unanimité. Donc évidemment, lorsqu'il sera question de prendre des mesures contre un agresseur, qu'il s'agisse des Japonais qui envahissent la Mandchourie en 1931 ou qu'il s'agisse de l'Italie de Mussolini qui envahit l'Éthiopie en 1935, il est question effectivement de prendre des sanctions et bien sûr l'unanimité n'est jamais obtenue et de ce point de vue la Société des Nations montre sa faiblesse insigne et son impuissance.
C'est encore vrai du Conseil de sécurité aujourd'hui à l'ONU puisque dans le cas par exemple de la crise ukrainienne on ne peut pas un instant penser que la Russie qui a un siège permanent rejoigne le point de vue des autres.
Alors formellement, l'ONU a fait des progrès dans la mesure où les décisions de l'Assemblée générale ne se prennent pas à l'unanimité, mais lorsqu'elles sont importantes, c'est la majorité des deux tiers. Les décisions du Conseil de sécurité ne se prennent pas à l'unanimité, sauf que ces décisions du Conseil de sécurité doivent se prendre, sinon à l'unanimité de tous les membres, doivent se prendre à l'unanimité des 5 membres permanents, d'où le droit de veto. Et effectivement, dans les cas que vous citez, il y a toujours un veto, en particulier le veto soviétique du temps de la guerre froide à l'URSS, ou le veto russe, ou chinois aujourd'hui, et qui rendent finalement l'ONU peut-être moins impuissante que la SDN, mais montrant beaucoup de cas de faiblesse.
On est déjà à la racine de l'échec des projets ambitieux d'Aristide Briand, qui avait voulu déclarer la mort à la guerre, et qui propose un projet d'action militaire à la fin des années 20, mais qui se heurte à la montée de la crise et à l'impossibilité d'agir dans ce sens. Il est d'ailleurs assez flou. Il parle d'une sorte de lien fédéral qui ne empiète en rien sur la souveraineté des États, ce qui est évidemment un oxymore.
Tout à fait. Dans son discours du 5 septembre 1929 à l'Assemblée de la SDN, il propose cette sorte de lien fédéral et il est applaudi. On est dans une ambiance extraordinaire. On est à la veille. On ne sait pas que quelques semaines plus tard, il y aura le crack de New York et la grande crise, évidemment. Donc on est en plein optimisme. Il est applaudi. On demande donc que ce discours se transforme en plan. Et effectivement, il y aura un plan d'union fédérale en 1930.
Mais déjà, par Alexis Léger,
rédigé par Alexis Léger, mais évidemment l'ambiance a changé depuis le crack de Wall Street, c'est la crise, le retour aux égoïsmes nationaux. Comme ce plan prévoyait justement une union douanière en particulier, donc diminuer les droits de douane, là au contraire, on est dans le nationalisme douanier et le protectionnisme qui revient. Donc poliment, ce plan d'union fédérale sera décliné par la plupart des puissances.
Dans quelques années, tout change. Écoutez ce discours radiodiffusé de Gaston Doumergue, président du Conseil le 17 juillet 1934. Il avait adopté la pratique des causeries au coin du feu de Roosevelt. Et on voit bien comment beaucoup d'espérances ont commencé de se dissiper.
Je dis défense, mes chers amis, car personne en France ne songe à chercher querelle à qui que ce soit, et encore moins à prendre sous un prétexte quelconque l'initiative d'une agression. Nous sommes passionnément attachés à la paix. Nous ne trouverons jamais la paix d'autrui, mais nous ne voulons pas que l'insuffisance de nos moyens de défense et de notre force de résistance à l'agression puisse donner un jour ou l'autre à un moins pacifique que nous l'intention de forcer violemment notre porte et d'envahir notre territoire. C'est le maintien de la paix dans le monde que la France poursuivra inlassablement. Si j'ai tenu, comme je vous l'ai dit, à faire adopter à notre pays, sur le terrain de la politique extérieure, une attitude répondant à son passé, à ses épreuves, à sa gloire, à son amour de l'humanité, c'est pour qu'elle puisse contribuer aussi efficacement que possible au maintien de cette paix et obtenir du même coup la pleine sécurité dont elle a besoin.
Derrière la rhétorique un peu convenue, Robert Franck, on voit le changement d'atmosphère.
Changement d'atmosphère, changement de politique, et ce que dit Gaston Doumergue est extrêmement important. En effet, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 20, depuis cet optimisme dont que l'on a mentionné, Aristide Briand, etc. La crise de 29, bien sûr, l'avènement de Hitler en janvier 1933, et surtout cette faillite de la sécurité collective. La SDN n'a pas réussi à mobiliser, disons, les États membres contre le Japon qui vient d'être l'agresseur de la Chine en envahissant la Mandchourie. D'autre part, la SDN a initié la conférence du désarmement en 1932 et qui échoue parce qu'il y a des accords entre Français et Britanniques qui n'ont pas la même conception du désarmement. Les Britanniques veulent un désarmement le plus possible. Les Français disent pourquoi pas, mais sécurité d'abord. Donc il ne s'agit pas de désarmer la France et de réarmer l'Allemagne. Et puis surtout, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, cette conférence du désarmement échoue et l'Allemagne sort à la fois de la conférence des désarmement et de la SDN dans laquelle elle était rentrée grâce à Briand quelques années plus tôt. Donc Doumergue, qu'est-ce qu'il dit ? Il suit, disons, ce qui avait été dit au printemps précédent, en 1934, constatant la faillite de la sécurité collective, la France décide d'assurer sa sécurité, je cite, « par ses propres moyens ».
Donc l'armée collective,
voilà,
c'est fini.
Voilà, c'est fini. La sécurité collective, c'est fini. Et donc c'est le début du réarmement. Un réarmement d'ailleurs sous Doumergue et Laval qui sera plutôt timide. Paradoxalement, c'est le Front populaire et Léon Blum qui lancera le réarmement d'une façon plus intense. Mais peu importe.
Pourquoi paradoxalement, je rappelle que contre un certain nombre de légendes, effectivement, le Front populaire a réarmé la France.
Oui, j'ai dit paradoxalement, parce que souvent c'est la droite qui est censée assurer, disons, le réarmement et la gauche pacifiste bêlante plutôt le désarmement. C'est plus compliqué que cela, voilà. Mais Doumergue est sincère. Hein. Il y a effectivement un début de réarmement, un réarmement aérien, et qui sera relancé par Léon Blum. Donc voilà, les choses sont relativement complexes. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment ce constat. La SDN, c'est bien, mais elle est impuissante. Donc il faut revenir à nos souverainetés nationales, à nos efforts nationaux.
Donc le rideau tombe pour un long moment sur cette aspiration d'une armée éventuellement collective européenne. Et il est temps que nous en venions à l'après-guerre, où à nouveau va se poser cette question. À la fois à cause de la fin de ce nouveau conflit épouvantable, le désir de trouver les bases d'une paix nouvelle en Europe, et à cause de la menace soviétique, bien sûr. Rappelez-nous comment, progressivement, s'est mise en place l'idée de communauté européenne de défense que Robert Schuman évoquait dans le discours que nous avons donné à entendre au début de notre conversation.
Je crois déjà que la Seconde Guerre mondiale change une chose radicalement, c'est de revoir les questions de défense et de sécurité, pas de la même manière que pendant l'entre-deux-guerres, pas de la même manière que dans les années 30. Qu'est-ce qu'on fait face à une agression ? L'idée que les Européens ont été trop faibles face à Hitler. Il y a eu Munich en 1938. Malgré les réarmements des uns et des autres, britanniques, etc., sauter le pas pour aller à la guerre. Après tout, Hitler réclame les Sudètes qui sont des Allemands de Tchécoslovaquie. Pourquoi ne pas lui accorder, sans voir qu'il voulait évidemment aller plus loin. Voilà. Donc voilà, c'est ce type de pacifisme, si vous voulez, qu'il faut absolument abolir. Plus jamais ça, c'est Munich.
La der des der dont voilà. On rêvait.
Donc, au pacifisme ambiant de l'entre-deux-guerres, le syndrome de Munich après 1945, comment résister donc à tout agresseur ? L'idée que le nouvel agresseur éventuel, ça peut être l'Union soviétique, puisqu'on est en guerre froide à partir de 1947. Il est évident que les Européens n'ont pas les moyens d'affronter l'URSS seule. La France, la Grande-Bretagne étaient des grandes puissances avant la guerre, de même que l'Allemagne et l'Italie. Elles ne sont plus des grandes puissances. On est face à deux superpuissances. Donc il est évident qu'à l'Ouest, il faut avoir l'aide américaine. Hein, d'où l'idée d'une Alliance Atlantique, voilà. Il y aura d'abord le pacte de Bruxelles entre Européens, Britanniques, Français et les trois pays du Benelux. Mais l'idée est que c'est insuffisant Il faut avoir donc l'aide américaine et très vite, il y a cette signature du pacte atlantique, nord-atlantique, en avril 1949. À partir de là, est-ce qu'à l'intérieur de l'Alliance atlantique, on peut construire, disons, une sorte de pilier européen?
Il faut distinguer l'Alliance atlantique de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est la traduction militaire de cet accord diplomatique.
Tout à fait. Le traité est de 1949. L'organisation du traité Atlantique Nord se met en place l'année suivante, en 1950. Donc tous les États signataires du traité sont dans cette organisation. Mais dans cette organisation, y a-t-il moyen d'avoir, disons, une sorte d'identité européenne propre, hein, d'où l'idée de Schuman, d'où l'idée de Pleven. C'est le plan Pleven du 24 octobre 1950 qui a lancé cette idée d'armée européenne dont Schuman parle, et on a entendu son allocution tout à l'heure.
Pleven était président du Conseil.
En octobre 1950, c'était effectivement le cas. Le plan Pleven est l'équivalent du plan Schuman. Le plan Schuman lance la CECA et le plan Pleven était supposé lancer l'armée européenne ou la CED qui, à la différence de la CECA, a échoué. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu cette idée. Les États-Unis sont plus importants pour la défense européenne, surtout face à l'Union soviétique. Mais deux, est-ce qu'à l'intérieur de l'Alliance atlantique, c'est ce que donc dit Schuman, est-ce qu'on ne peut pas activer, comme par un levier, la construction européenne par la défense?
Donc la France joue à cet égard un rôle essentiel, en particulier sous l'influence de Jean Monnet.
Oui.
Jean Monnet, qui est le père de l'Europe en arrière de la main.
Un des pères de l'Europe, en tout cas. Voilà.
Oui, un des pères de l'Europe.
Et effectivement, là, il joue un rôle important. Et pour Jean Monnet, si vous voulez, c'est cette idée, effectivement, que à partir de cette défense européenne, on pourrait aller plus loin dans la constitution d'une Europe intégrée politiquement également.
Ce qui suppose évidemment de surmonter beaucoup de souvenirs de la guerre pour accepter que se retrouvent sous les mêmes drapeaux les Allemands et les Français. Et aussitôt naissent un certain nombre d'oppositions, et en particulier celle du général de Gaulle, de Charles de Gaulle, qui est en train de quitter son grand projet de rassemblement du peuple français. On est en 1953, mais qui tient néanmoins dans une conférence de presse à s'exprimer de la façon que vous allez voir. Il n'est pas très favorable ni à la CED, ni à Jean Monnet, qu'il appelle l'inspirateur.
Quelques retards que nos gouvernants aient mis à promouvoir une véritable organisation européenne, la question du réarmement allemand leur en offrait encore l'occasion. Mais c'était là la voie claire et droite. Ils ont malheureusement tâché de trouver la solution dans l'astuce. L'astuce, d'ailleurs, était prête. Et l'inspirateur était prêt, lui aussi, avec sa panacée, qu'on appelle la fusion. Mais quelle occasion vilifique offrait à sa panacée la difficulté d'accorder la France et l'Allemagne sur le sujet du réarmement allemand. Et quoi ? Voilà deux peuples qui se battent depuis plus de 20 siècles. L'Allemagne est emportée sans cesse par l'instinct de la domination. Hier encore, elle a failli tuer la France. Il s'en est fallu de très peu. En rien de plus simple que d'arranger cela. Mélangeons cette France avec cette Allemagne. Puisque la France victorieuse a une armée et que l'Allemagne vaincue n'en a pas, supprimons l'armée française. Nous ferons ensuite une armée apatride de Français et d'Allemands. Et comme il faut un gouvernement au-dessus d'une armée, ben nous ferons aussi un gouvernement apatride, une technocratie. Ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance, excepté pour les apparences. Et il est sorti de l'inspiration, le traité que l'on sait, bien que bien peu le connaissent.
On trouve là, Robert Franck, puisque nous parlons de l'histoire sur la longue durée de l'ambition d'une armée européenne ce matin, on trouve là les arguments rassemblés de beaucoup d'opposants à la communauté européenne de défense, dans la voix de Charles de Gaulle.
Oui, Charles de Gaulle...
Avec son talent spécifique.
Avec son talent extraordinaire. Et effectivement, pointe justement cette Europe apatride. Et il est vraiment très attaché à la souveraineté nationale, à l'armée française. Et au fond, la fin de l'armée française, c'est la fin de la France, d'une certaine manière, de son point de vue.
Mais en même temps, il n'est pas défavorable à l'idée d'une Europe... Non. À ce moment-là, qu'il a un rapprochement franco-allemand qu'il a prôné dès 1945-46.
Tout à fait. Et en 1949, explicitement, il parle d'une confédération européenne. Et dans son idée, bien sûr, dans le cas de cette confédération, les États ne perdent pas leur souveraineté, ou le moins possible. Et dans cette confédération, la nouvelle Allemagne de l'Ouest. Donc il n'y a aucun anti-germanisme de son point de vue.
Même s'il force un peu le train en disant qu'il y a des millénaires la guerre entre l'Allemagne.
Et puis il joue un petit peu sur l'opinion qui se méfie évidemment. Encore de l'Allemagne. Mais il y a dans cette querelle de la CED, presque tous les partis ont été divisés. Les seuls partis non divisés sont le RPF, donc c'est un mouvement plus qu'un parti, mais le RPF, donc le mouvement gaulliste.
Hostile.
Entièrement hostile. Au centre, le MRP est entièrement favorable, c'est la démocratie chrétienne, entièrement favorable à la CED. Et à l'extrême gauche, le parti communiste entièrement hostile. Mais tous les autres partis sont divisés. Les socialistes, les radicaux à gauche, à droite, les indépendants sont divisés entre cédistes et anti-cédistes.
On a oublié parfois la force de cette querelle, la puissance des antagonismes qui se nourrissent de quoi, Robert Franck ?
Beaucoup de Français à l'époque, et encore aujourd'hui, se sentent évidemment Français, ont une identité nationale forte, mais dans une grande mesure, ils se sentent aussi Européens. Donc il y a une sorte de tension entre ces deux identités, l'identité nationale et l'identité européenne. Et dès qu'on parle de la question de la défense, là, on est au cœur de l'âme nationale. Et là, bien entendu, la question de l'identité nationale, le poids de l'identité nationale peut l'emporter plus aisément sur l'identité européenne, alors qu'évidemment, sur les questions de charbon, d'acier, voire de marché commun, c'est plus facile de concilier davantage identité nationale et identité européenne.
Il y a de l'anti-germanisme, parce que l'on est 10 ans après la guerre et la chute du nazisme.
L'anti-germanisme est profond et le Parti communiste joue beaucoup là-dessus. Cela étant, la querelle a duré quasiment 4 ans, enfin en tout cas 2 ans de 52, date de la signature du traité de Paris instituant la CED en mai, et jusqu'au vote final de l'Assemblée nationale française en août 54. Et il y a une évolution. Au départ, les anticédistes critiquent surtout la part belle faite à l'Allemagne. L'anti-germanisme l'emporte. À l'arrivée, c'est beaucoup plus la question institutionnelle et la crainte de voir perdre la souveraineté nationale. La preuve, c'est qu'une fois la CED, lorsqu'elle va échouer, eh bien, l'Allemagne fédérale entre dans l'OTAN. Donc, d'une certaine manière, dans le cas de l'OTAN, il y a un début de réarmement allemand et cela ne fait plus de bruit. L'anti-germanisme, de ce point de vue, à partir de 54-55, a diminué.
C'est ainsi qu'on va aboutir à cette situation étrange et finalement assez dommageable. Dès ce moment-là, la réputation de la France en Europe, que notre pays qui a lancé le projet de communauté européenne de défense va être celui qui va le naufrager. Dans des circonstances qu'il faut rappeler, c'est Pierre Mendès France qui est président du Conseil depuis peu. Il a été rappelé pour faire la paix en Indochine et il a contribué à améliorer la situation en Tunisie également. Et voilà qu'il se trouve, lui, quelques semaines après son accession à Matignon, il se trouve responsable de gérer la crise de la CED. Il décide de ne pas s'engager, paradoxalement. Écoutons-le dans son allocution radiophonique hebdomadaire. Lui aussi avait repris, aux grandes dames d'ailleurs des parlementaires, l'habitude de Roosevelt, après Doumergue, de ses propos du samedi, adressés à l'opinion par-delà les députés et les sénateurs. On est le 28 août 1954 et c'est le surlendemain, le 30 août, les CEDistes parleront du crime du 30 août, que le projet de CED sera rejeté par l'Assemblée nationale.
C'est une grave épreuve que nous affrontons maintenant, et moi tout le premier. Un journal a écrit que je me trouvais au centre d'une véritable tempête. J'en ai bien souvent l'impression, en effet. La question d'Indochine, la question de la Tunisie était difficile. Mais j'ai pu les traiter avec le sentiment que dans leur ensemble, le pays et le Parlement me faisaient confiance, une confiance que je crois avoir méritée. Le problème de la CED, je l'aborde dans des conditions bien différentes, puisqu'il divise profondément les Français entre eux et le Parlement. J'aurais voulu le résoudre en opérant un rapprochement entre des patriotes d'égale bonne foi. Pour cela, j'ai pris comme base le traité que nos représentants avaient signé il y a plus de 2 ans déjà. Mais pour que le traité devienne acceptable à la grande majorité des Français, il fallait aussi faire en sorte que des stipulations qui heurtent le sentiment de beaucoup d'entre eux soient modifiées ou ajournées. J'ai recherché un compromis qui, je le savais d'avance, ne pouvait plaire totalement ni aux partisans ni aux adversaires de la CED. Les uns et les autres auraient préféré avoir entièrement gain de cause. J'espérais malgré tout qu'ils accepteraient une conciliation, qu'ils comprendraient enfin que des concessions mutuelles peuvent seules régler le désaccord et mettre fin à une mésentente dramatique. Le texte du gouvernement fournissait, je l'affirme, une base loyale de rapprochement entre hommes de bonne foi. Cependant, mon espoir ne s'est pas réalisé. J'ai rencontré une double opposition qui tenait à la fois à la passion avec laquelle les deux partis se sont attachés à leur cause et à la force avec laquelle ils ont continué à se combattre. Certes, je comprends qu'on se passionne pour des thèses qui mettent en jeu des intérêts si élevés. Les uns n'ont en vue que la construction de l'Europe, l'idéal d'un avenir réalisé dans l'union et la fusion de peuples qui se sont trop longtemps affrontés. Les autres sont animés par la crainte d'un amoindrissement de la France au sein d'une nouvelle communauté. Ils redoutent que notre pays affaibli ne puisse y défendre ses intérêts propres ni maintenir intact son génie national. Il me semble, quant à moi, que des objectifs aussi nobles et des préoccupations aussi légitimes ne sont pas forcément inconciliables. La question est de mesurer, selon une parole de Victor Hugo, la quantité d'avenir qu'on peut introduire dans le présent.
Pierre Mendès-France me semble résumer bien les deux points de vue, mais ce n'est pas spéculer, Robert Franck, sur sa pensée profonde que de dire qu'il n'était probablement pas lui-même très favorable à une sorte de liberté donnée à l'Allemagne de se réarmer ou à l'idée de créer une armée européenne.
Pas forcément favorable, peut-être soulagé après le 30 août. Il faut bien comprendre qu'on a un cadavre dans le placard depuis le mois de mai 52. Hein, tous les gouvernements essayent de ne pas ouvrir le placard. Bon, il a le courage de l'ouvrir. Et voilà. Donc il négocie effectivement avec Bruxelles pour essayer de changer le traité, pour faire cette conciliation qu'il dit entre tous ces patriotes de bonne foi, entre ceux qui veulent plus d'Europe et ceux qui veulent plus de souveraineté nationale. Il échoue, je pense qu'il devait prévoir cet échec. Et du coup, la CED, il n'y a plus de CED. Et dans les semaines qui vont suivre, c'est l'UE qui va naître, c'est-à-dire l'Union européenne occidentale. Alors bien entendu, il n'est plus question d'intégration, c'est vraiment une alliance assez classique, avec, aux yeux de Mendès-France, l'avantage d'inclure la Grande-Bretagne, parce qu'évidemment, la Grande-Bretagne ne voulait pas de la CED, pas plus qu'elle avait voulu de la CECA, elle voulait à l'arrière être associée à la CED, mais pas dedans. Là, au contraire, elle sera dans cette Union européenne occidentale, où on accepte la République fédérale d'Allemagne, et c'est un tremplin pour que cette RFA entre aussi dans l'OTAN. Donc voilà, ce réarmement allemand, finalement, a lieu malgré tout, mais sans cette Europe intégrée militairement avec l'échec de la CED.
Du coup, on est loin de l'idée du pilier européen de l'OTAN qui avait été évoqué favorablement par Robert Schuman ou Pleven au début des années 50.
L'UE aurait pu l'être. Et finalement, l'UE, quasiment jusqu'à la fin, n'a pas eu un grand rôle. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'il a été question de faire de l'UE ce pilier. Mais nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Ça ne s'était pas tout à fait passé de cette manière.
Parce que les années gaulliennes, les années 1960, n'excluent pas l'idée d'une coopération très, très intime des armées françaises et allemandes. De Gaulle prend beaucoup de distance par rapport à ses propos de 1953. C'est violemment anti-germanique. Au contraire, il revient à son idée de 45, de retrouvailles nécessaires entre les deux pays des deux côtés du Rhin. Mais évidemment, il n'accepterait pas l'idée d'une armée intégrée où se dissoudrait l'armée française, une armée qui, de surcroît, à ses yeux, doit retrouver une énergie nouvelle grâce à la bombe atomique française.
Bien entendu, il y a d'une part la force de dissuasion nationale, hein, qui fait que donc, la France maîtrise complètement son destin et son avenir. Ça n'empêche pas la coopération, c'est le maître mot de Gaulle, c'est-à-dire une coopération, sous-entendu, intergouvernementale.
Le plan Fouché évoque d'ailleurs un rapprochement très intime des forces militaires allemandes et françaises et des autres pays européens.
De Gaulle ne veut pas des États-Unis d'Europe, mais il veut l'union des États. Et c'est-à-dire que cette union des États, c'est effectivement dans le respect des souverainetés nationales, avec pourquoi pas des compromis, c'est-à-dire pourquoi pas des délégations ponctuelles et provisoires de souveraineté, mais maîtrisées au début et à la fin. C'est donc une autre conception qui est complètement différente de celle qu'avaient Jean Monnet, Pleven et Schuman dans les années 50.
Alors comment peut-on lire sous cette lumière la décision de 1966, la décision du général de Gaulle de quitter l'OTAN?
Je crois que c'est une question plus identitaire que sécuritaire. C'est-à-dire que de Gaulle est attaché à l'Alliance Atlantique. Il l'a montré en 1962 au moment de la crise de Cuba. Il a été très ferme pour appuyer Kennedy contre Khrushchev lors de l'installation des missiles soviétiques à Cuba. Et Khrushchev, finalement, a dû céder. En revanche, il faut, grâce à la force de dissuasion nationale, que la France, dans le cadre de cette Alliance Atlantique, garde son indépendance. Qu'elle soit maîtresse de son destin, c'est-à-dire que effectivement la France n'entre pas automatiquement dans une guerre nucléaire parce que les États-Unis entraîneraient l'OTAN dans cette guerre nucléaire, que la France puisse décider. Donc la France reste dans l'Alliance Atlantique, mais quitte le commandement intégré de l'OTAN tout en restant dans l'Alliance. Et les archives le montrent bien, beaucoup d'historiens l'ont bien montré, derrière Maurice Weiss, Pierre Mélandry et Frédéric Bozeau, à savoir que la France est bien restée dans l'OTAN. Si elle n'est pas dans le commandement intégré, les militaires français ont poussé de Gaulle et ses successeurs d'être présents en plus de conversations possibles pour ne pas perdre le fil des informations qui circulent dans l'OTAN.
On est en liaison avec l'OTAN sans être vraiment à l'intérieur de l'OTAN. Et on est dans l'Alliance Atlantique, bien sûr.
Donc, si vous voulez, de Gaulle ne veut pas sacrifier la sécurité de la France. Et il sait qu'on a besoin des États-Unis et du parapluie américain. En revanche, il veut jouer sur le levier identitaire, l'identité nationale. Et bien sûr, ça permet, disons, ce lien avec le peuple français. Ça renforce son charisme présidentiel que de vouloir cette sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN qui paraît national.
La diplomatie française n'ignore pas en même temps que du côté américain, on reste favorable à l'idée plus ou moins d'une intégration des forces européennes, à l'idée que l'Europe prenne militairement sa part du fardeau, mais à condition qu'elle reste dans l'ensemble soumise à un gouvernement général des forces par Washington.
Voilà, et c'est évidemment ce à quoi de Gaulle résiste, et évidemment à juste titre. Il y a cette propension américaine dans le cadre de l'Alliance Atlantique d'être le chef d'orchestre, d'être le leader. Et c'est ce qui est évidemment un peu remis en question par le général de Gaulle.
Quoi qu'il en soit, il faut attendre du même coup assez longtemps pour que ressurgisse l'idée d'une armée européenne éventuellement intégrée jusque dans le détail de ses forces, jusqu'assez bas dans la hiérarchie. Et le moment Mitterrand, après 1988-90, est important. Et la décennie 1990 compte parce que c'est celle de l'impuissance de l'Europe, en particulier dans les Balkans, qui va avoir des conséquences en 1998 dans la résurgence, n'est-ce pas Robert Franck, la résurgence d'une ambition d'armée européenne.
Oui, les choses changent bien sûr à partir des années 80. Le couple Mitterrand-Kohl veut avancer dans la construction de l'Europe, créer une Europe politique. Et les questions de défense doivent évidemment jouer un rôle. Et au moment de la chute du mur, de la fin du communisme en Europe, de nouvelles opportunités s'offrent dans la mesure où, certes, l'Amérique joue un rôle dans la défense de l'Europe, mais puisqu'on n'est plus en face d'une menace soviétique, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour l'Europe de s'organiser elle-même également ? C'est pas un hasard, donc c'est en 1989 qu'est créée la brigade franco-allemande.
Ça a marché ?
Elle existe. Et quelques années plus tard, le corps européen, où il y aura effectivement des Français, des Allemands, mais aussi des Belges, des Luxembourgeois et des Espagnols. Donc c'est ce corps armé qui n'est certes pas l'armée européenne dont il était rêvé par Schuman, Pleven et Monnet au début des années 50, mais
ça joue un rôle.
Joue un rôle, écoutez, au moins symbolique, le 14 juillet 1994, Le record défile sur les Champs-Élysées. Donc, des soldats allemands défilent sur les Champs-Élysées. C'est quand même un choc psychologique. Et c'est approuvé par 58% des Français. La Seconde Guerre mondiale est vraiment terminée en 1994. Hein, on oublie le défilé des Allemands avenue Foch, de l'autre côté de l'étoile, le 14 juin 1940. Donc, l'occupation n'est pas complètement oubliée, mais au niveau du symbole, on accepte que des Allemands défilent avec des Français et d'autres Européens sur les Champs-Élysées. Ne serait-ce que pour ça... Eurocorps joue un rôle, oui, dans plusieurs opérations européennes, que ce soit en Macédoine, dans la République démocratique du Congo. Il y a des opérations européennes qui ont existé. Mais évidemment, c'est après Saint-Malo, après le tournant de Saint-Malo de 1998.
1998, qui lui-même est évidemment le fruit d'une certaine impuissance européenne pour régler la question de la guerre dans les Balkans. 1998, c'est un nouveau départ, une nouvelle espérance qui ne va pas aller très loin, mais l'espérance d'une nouvelle armée européenne. Jacques Chirac l'exprime, d'ailleurs, le président de la République, on est en cohabitation, il s'exprime le 29 mai 1999 de la façon suivante.
L'Union européenne n'existera pas pleinement sur la scène internationale tant qu'elle ne disposera pas de capacités autonomes de décision et d'action. Le corps européen doit être par conséquent transformé pour accomplir les nouvelles missions auxquelles on voit bien que l'Europe doit pouvoir faire face. Il faut en faire un corps de réaction rapide européen. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés aujourd'hui, qui, sur le plan de la défense européenne, est une décision, je dirais, historique. C'est une contribution essentielle à l'émergence d'un monde multipolaire, obéissant par ailleurs à une règle de droit international qui ne peut être élaborée que par la communauté des nations incarnée par l'ONU et agissant sous l'autorité de son Conseil de sécurité.
Voilà qui est clair, Robert Franck. Alors il faut que vous nous rappeliez comment on en est arrivé à Saint-Malo, c'est-à-dire à la rencontre de deux cultures dans le domaine militaire et diplomatique fort éloigné, la culture britannique et la culture française. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Malo et pourquoi ?
Vous avez eu raison tout à l'heure de mentionner la guerre de Bosnie. Hein. Effectivement, avec la guerre de Bosnie en 92, la guerre revient en Europe. C'était pas arrivé depuis 1945. Et on pensait qu'avec la chute de l'URSS, la paix était là assurée. Eh bien non, la guerre revient. Et les Européens ne sont pas capables de résoudre la question. Il n'y a plus d'URSS, il n'y a plus de menace soviétique, et il a fallu passer par les États-Unis et par l'OTAN. Certes, la France, la Grande-Bretagne et d'autres font partie de l'OTAN, mais c'est bien sûr le bras séculier américain qui est le maître d'œuvre donc dans cette intervention.
Pour réduire la Serbie à Kuya.
Voilà. Et la fin de la guerre de Bosnie, elle s'exprime par les accords de Dayton, hein, signés non pas en Europe mais aux États-Unis.
Quel symbole.
C'est une humiliation. C'est une humiliation. Hein. Les Américains ne voulaient pas y aller au départ. Hein. Mais bon, les Européens se montrant impuissants, les Américains ont considéré qu'il fallait y aller. D'où un choc psychologique en Europe. Et Saint-Malo est important parce que, à cause de ce choc psychologique, Français et Britanniques vont se rapprocher dans un compromis véritablement historique entre deux cultures de défense différentes. Côté britannique, c'était simple. Depuis la défaite de 40, on ne peut pas faire confiance à la France. L'alliance suprême, c'est l'Amérique. L'Amérique d'abord, hein, la special relationship, la relation spéciale. Hors d'Amérique, point de salut. Donc, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, c'était important. Une sécurité européenne, un pilier européen, c'est une idée française, ce n'est que littérature, hein, c'est pas d'efficacité. Côté français, depuis De Gaulle, à l'Europe Atlantique, préférons une Europe européenne. Voilà, fidèle à l'Alliance Atlantique, mais avec une identité européenne. Les Britanniques n'en voulaient pas. Eh bien, si j'ose dire, à Saint-Malo, les Français vont mettre de l'eau dans leur vin, ce qui n'est pas bon, mais ce n'est pas grave. Les Britanniques vont mettre de l'eau dans leur whisky, ce n'est pas bon non plus, mais ce n'est pas grave. Et ça va permettre effectivement ce compromis. C'est-à-dire, au fond, les Britanniques demandent aux Français « oui, mais l'Alliance Atlantique reste toujours importante ». Les Français répondent « oui ». Et les Français disent « l'Alliance Atlantique est importante, mais à l'intérieur, ayons un véritable pilier européen ». Non pas l'UE, on y avait pensé, mais que ce soit l'Union européenne elle-même qui fasse ce pilier. Et donc l'idée d'une capacité de défense, d'une force de projection, et c'est acté par les Français et les Britanniques à Saint-Malo, et quelques mois plus tard, par l'Union européenne au Conseil européen de Cologne, puis celui de Helsinki en 1999. Et c'est ce qui va permettre à l'Eurocorps, qui existait déjà auparavant, d'être effectivement une force de projection qui dépend de l'Union européenne. Donc on est très loin du rêve d'armée européenne des années 50, mais on a là un socle à partir duquel, grâce à ce compromis historique franco-britannique, l'Europe de la défense peut se créer.
Il y a eu en même temps des déceptions à partir de cette espérance.
C'est vrai que la guerre d'Irak et le désaccord sur la guerre d'Irak en 2003 entre Français et Britanniques a pu donner un coup au processus de Saint-Malo. Cela dit, le processus de Saint-Malo a pu survivre à cette divergence de 2003.
Vous voulez dire que les Anglais sont allés avec les Américains en Irak et que les Français l'ont refusé.
Et là, effectivement, on a un différent très, très, très important. Et pour revenir à Kagan, qui parlait de l'Europe sous le signe de Vénus et les États-Unis sous le signe de Mars, c'est évidemment exagéré parce que les Européens sont restés aussi sous le signe de Mars dans la mesure où ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre avant 2003 et ils ont continué à la faire après. Je veux dire, il y a l'intervention française au Mali, etc. Bref, l'Europe n'est pas devenue tout d'un coup pacifiste. Mais c'est vrai qu'il y a des différences de point de vue entre Américains, je dirais, d'un côté et Français-Allemands de l'autre. Et les Britanniques, de ce point de vue, étaient plutôt du côté des Américains. Les Américains disant, au fond, nous faisons la guerre du bien contre le mal. Je crois que c'est assez typiquement américain, ou en tout cas typique de la réflexion de George Bush Jr. Les Européens ont plutôt tendance à dire, oui, nous sommes d'accord pour faire la guerre contre le mal, mais ce n'est pas pour ça que nous incarnons le bien. Je veux dire, il y a un peu moins de manichéisme, je dirais, dans la culture politique européenne que dans une certaine culture américaine. Et les Britanniques ont bien sûr eu du mal à se positionner de ce point de vue.
Mais est-ce que c'est cela, Robert Frank, qui explique le faible niveau des dépenses budgétaires dans les différents pays d'Europe, la France et l'Angleterre restant à un niveau honorable à cet égard, mais les autres pays ayant tendance à s'en remettre entièrement au parapluie américain? Est-ce que la crise économique a joué un rôle et de quelle nature?
La crise économique a joué un rôle. Il y a de toute façon cette baisse tendancielle dont je vous parlais, parce que, je répète, il n'y a pas la menace soviétique. Donc, quelles que soient les menaces qui surgissent ici ou là, ça demande moins d'armement, moins de dépenses que pendant la guerre froide, où il fallait vraiment se prémunir contre un géant. Mais c'est vrai que la crise a accéléré les choses d'une façon patente. Ne pas oublier que si la France et la Grande-Bretagne ont un budget d'armement supérieur aux autres membres, c'est pour des raisons, je dirais, historiques. Je crois que c'est Hubert Védrine,
l'ancien ministre des Affaires étrangères de la cohabitation entre...
Et qui a beaucoup écrit sur la relation internationale, qui réfléchit beaucoup là-dessus. Et
je crois 1997 et 2002.
De très bonnes formules. Et c'est lui qui avait inventé la formule de l'hyperpuissance américaine. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de superpuissance, mais une seule superpuissance, et du coup, est une hyperpuissance. Il a aussi eu une autre formule. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ne sont que des puissances moyennes. Même l'Allemagne. L'Allemagne, bien sûr, est plus puissante économiquement que la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne a aujourd'hui un rôle plus grand dans l'Europe que la France et la Grande-Bretagne. Mais l'Allemagne est une puissance moyenne à vocation européenne seulement. Alors que la France et la Grande-Bretagne sont des puissances moyennes à vocation mondiale. Hein, du fait peut-être de leur passé colonial, de leur responsabilité, ou du moins de la façon dont elles perçoivent leur responsabilité en Afrique et ailleurs, d'où ces interventions et d'où cette volonté de garder un budget de défense supérieur aux autres budgets de défense des partenaires européens.
Il reste que le jeu reste très ouvert. D'abord, la France est rentrée dans l'OTAN à l'initiative du président Sarkozy. Et à présent, les incertitudes sur le flanc orientale de l'Europe, avec la crise de l'Ukraine, qui commence à peine en vérité, remet sur le devant de la scène la grande question de cette Europe de la défense qui reste en grande partie, n'est-ce pas, Robert Frank, qui reste très, très, très limitée en vérité, presque fantomatique, je le disais. Alors j'ai envie, pour finir, de vous faire jouer brièvement à un peu d'Uchronie, comme nous aimons à dire, ce qui se serait passé si, supposez que Pierre Mendès France s'engageant, une partie de l'opinion évoluant différemment, la CED ait été adoptée en 1954. Vous êtes amusé à évoquer cela dans un article récent de Témoignages chrétiens. Alors, voulez-vous que nous finissions notre conversation en rêvant un instant? On n'est plus vraiment dans l'histoire, on est dans l'histoire rêvée, l'histoire fiction.
Effectivement, on peut rêver. Parce que si on ne rêve pas, on pourrait dire, bon, la CED est adoptée le 30 août 54, elle démarre. Je pense que toutes les contradictions dont nous avons parlé auraient surgi à un moment ou à un autre. Hein, voilà. Et puis bon, le général de Gaulle venant, n'est pas sûr qu'il aurait gardé les mêmes règles.
Mais, oh, il a gardé le marché commun, voilà, après tout.
Justement, si on rêve un peu, on peut trouver d'autres types d'engrenages, si j'ose dire, et de dynamique. Il ne faut pas oublier qu'à côté du projet de CED, il y avait un projet de communauté politique européenne. Hein, l'idée, on ne peut pas avoir l'armée européenne sans un certain gouvernement européen.
Toute l'histoire l'apprend. On imagine mal une politique militaire sans politique qui la soutienne et qui la porte.
Tout à fait. On est effectivement, on peut faire le parallèle entre le monétaire et le militaire. Est-ce qu'on peut avoir une monnaie unique sans gouvernement européen? Est-ce qu'on peut avoir une armée européenne sans gouvernement européen? C'est un peu le pari pour les uns et du coup la crainte, évidemment, pour les autres. Alors, si on rêve un peu, on pourrait dire, au fond, que assez rapidement, il y aurait eu un projet de constitution européenne de type fédéral. Elle aurait peut-être même été adoptée avant que le général de Gaulle arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, le général de Gaulle, évidemment, l'aurait un peu remis en question. Mais voulant garder le marché commun, comme il l'a fait effectivement, voulant garder une certaine construction européenne, peut-être au fond, si on rêve un peu, les cinq autres partenaires, pour lui faire plaisir, lui auraient proposé la présidence de cette fédération européenne. Et peut-être aurait-il pu dire d'accord, à condition que j'ai un droit de veto sur telle ou telle question, ce qui garde donc une certaine part de souveraineté nationale. On aurait pu arriver à certains compromis. Il n'aurait même pas été sûr, une fois président de cette fédération européenne, qu'il ait utilisé ce droit de veto. Et c'est on peut rêver. Ce qui est important à dire, c'est que s'il y avait eu une fédération européenne dans la foulée, il y a un pays qui ne serait pas rentré, la Grande-Bretagne. Cela aurait facilité les choses.
Et on parlerait beaucoup plus français à Bruxelles.
Peut-être. Non, voilà. Alors, dans l'Uchronie, je rêve toujours. Il se dit, mais au fond, une fois Blair au pouvoir à la fin du XXe siècle, au fond, il fait entrer la Grande-Bretagne dans cette fédération d'États-nations où les souverainetés nationales, malgré tout, sont en partie sauvegardées. Mais effectivement, en 2003, il y aura une tension très importante entre le président Blair de cette Union européenne et le commissaire français aux affaires étrangères à propos de l'Irak. Et effectivement, le clash aurait amené la démission de Blair. Enfin, bref, on peut rêver, on peut s'amuser, mais ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y a des dynamiques, si vous voulez, hein, et des dynamiques contradictoires, hein, entre effectivement la volonté tout à fait légitime, et je reviens à ce que disait Mendès France, des patriotes, de garder l'identité nationale et une certaine part de souveraineté nationale, et cette volonté tout aussi légitime d'aller plus loin dans la construction européenne, et comment concilier les deux, toute la grande question est là, et en partie dans les questions militaires, c'est encore plus grave lorsqu'il est question de droit de vie et de mort sur ses citoyens, sur ses propres soldats.
Eh bien, il me semble que nos auditeurs nous pardonneront d'avoir joué pour une fois à l'histoire fiction pour finir, puisque, comme toujours, celle-ci peut éclairer sur certains moments où l'histoire a hésité et où il aurait pu se dessiner, ce sont des moments clés, où aurait pu se dessiner une autre histoire. Mais nous allons revenir immédiatement dans ce qui s'est vraiment passé, de ce qu'on peut interpréter, en signalant que vous avez récemment dirigé un livre essentiel qui s'appelle « Pour l'histoire des relations internationales », Robert Franck, paru aux Presses universitaires de France en 2012, qui considère toute cette durée, évidemment, sous une focale beaucoup plus large. Et puis que vous venez également de donner chez Belin, un livre qui s'appelle « La hantise du déclin, la France de 1914 à 2014 ». C'est une réédition, mais mise à jour, et la notion de déclin est tellement importante dans les sensibilités contemporaines que chacun va se précipiter sur ce précieux ouvrage. Mes chers auditeurs, vous savez que vous pouvez retrouver une bibliographie complète sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés, et que vous pourrez également écouter, réécouter, télécharger cette émission pour la conserver dans l'éternité. Samedi prochain... changement de décor. Nous parlerons des crimes d'amour, Robert Franck. Nous parlerons des crimes d'amour de siècle en siècle, tels qu'ils se sont produits naturellement et tels qu'ils ont été analysés, compris, punis, rêvés. J'inviterai Benoît Garneau, qui vient d'écrire un livre intéressant sur ce sujet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec le concours aussi de Nathalie Lempereur. Une émission réalisée aujourd'hui par Ghislaine David, avec à la prise de son Pierrick Charles, à la discothèque Romain Couturier, et Gwen Michel pour les Archivinas. dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question.